maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de quelqu'un que, mais finalement, qui n'est jamais passé par notre micro, puisqu'il est tout neuf dans le métier, en tout cas le métier officiel. C'est ce brave jeune homme, ce gentil jeune homme courageux qui a fait la route jusqu'à Bruxelles, s'appelle Guillaume Gigleux. Bonjour Guillaume.
Salut à tous.
Alors Guillaume, tu es un nouveau venu, puisque en fait on a troqué l'accent québécois que j'adorais hein, avec Martin Bouchard, mais que j'avais peut-être l'occasion de rencontrer moins facilement. Tu es le représentant Philosophia, côté français, côté européen, on va dire. C'est quoi l'histoire de l'accession de Guillaume Gigleux à ce bureau Philosophia?
Ah, j'ai comploté et puis j'ai pris la place. Non, par contre, pour l'accent québécois, je pourrais encore faire un effort, mais
tu viens un stage.
Ouais, c'est ça, intensif. En l'occurrence, Philosophia a décidé, à juste titre, d'être au plus proche des joueurs, du public, du côté francophone, France et les alentours, Europe. Je vais peut-être pas aller trop loin ni trop vite. Et donc, il y a quelques mois, fin 2012, a fait une petite annonce en disant, voilà, recherche chargée de communication et à l'événementiel pour Philosophia France, nouvelle petite entité. J'ai postulé, petit parcours du combattant, il a fallu rencontrer, convaincre, téléphoner, re-rencontrer. Bon, en l'occurrence, ça s'est fait, et donc depuis mi-janvier 2013, me voici nouvellement arrivé. Alors, je ne fais pas encore le malin, hein, je peux t'assurer, parce que le monde ludique, ça a beau être le monde ludique, ça reste vaste, il y a beaucoup de choses à apprendre, donc je ne viens pas du milieu de la communication ou de l'événementiel, je viens, on va dire, professionnellement d'un autre milieu, mais par contre, plutôt du jeu, joueur, rôliste, figuriniste, enfin bon, bref, je suis passé partout.
Quel est ton titre, en fait, chez Philosophia? Enfin, quel est ton job, en fait?
Alors, mon job, c'est un petit peu ronflant, et voilà, mais j'en suis très content, hein. Ça fait trop gros pour mettre sur une porte de bureau, c'est chargé de communication et d'événementiel.
Ça va,
oui, il y a pire.
Alors justement, qu'est-ce qu'on demande à quelqu'un comme toi, c'est-à-dire qui est chargé de la communication, de la promotion des jeux Philosophia, lors des interviews, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on t'a demandé de prouver ou de dire, qu'est-ce qui a fait qu'on t'a sélectionné finalement?
Alors, ce qui a fait qu'on m'a sélectionné, je ne saurais le dire, mais ça serait avec plaisir que j'entendrais l'interview de Martin ou de Sophie à ce sujet-là. Je serais très content.
Mais pourquoi Guillaume?
Mais pourquoi lui? Alors, en l'occurrence, moi, je me place, on va dire, vraiment sur cet axe communication, on va dire interface entre les joueurs, les boutiques même, on pourrait dire, de notre côté de l'océan, et donc interface avec la maison mère qui se trouve du côté de Montréal, reprendre un maximum d'informations et en même temps être aussi capable d'en donner un maximum. Prendre aussi le temps de mettre un peu en avant, bien évidemment, les produits, donc être plus présent, ben voilà, avec toi, être plus présent sur les Trick-Track télé, sur les événementiels aussi, les salons, pouvoir assurer d'une présence physique marquée, et donc mettre en avant les jeux de la gamme Philosophia. Le jeu organisé aussi, par exemple, Summoner Wars, c'est vrai qu'avoir quelqu'un sur place est beaucoup plus facile pour dire ensuite aux boutiques, ben voilà, à tel moment, il y a telle sortie, on peut faire un tournoi de plus. C'est un petit peu tout ça qui m'échoit. En même temps, il y a aussi une relation, bien évidemment, très étroite avec Asmodée, en tout cas pour la France, pour la distribution, et comme ici, Asmodée Benelux. Donc, c'est un petit peu multicasquette. Et en l'occurrence, je pense que les années d'expérience, même si ce n'est pas dans le milieu professionnel du jeu de société, me sont peut-être utiles en termes d'équilibre, de personnalité, j'espère, assez posée pour pouvoir un peu prendre du recul et puis mener tout ça de front. Et enfin, pour finir, ce côté passionné du jeu. Je n'oserais peut-être pas le terme geek parce que on ne sait pas, mais on peut le dire peut-être sans honte, d'accord. Alors disons-le sans honte, le côté un petit peu collectionneur, un petit peu poussé amateur, mais dans tous les domaines du jeu de société, jeu de rôle, jeu de figurines et tout, ce qui m'a amené à traîner ma bosse, même si même si j'ai jamais, j'ai pas de prédisposition en disant c'est moi, c'est Guillaume, vous n'attendiez que moi, pas du tout. Voilà, j'étais juste un joueur, mais un joueur passionné par beaucoup de choses et donc qui allait sur beaucoup de terrain.
Et donc le parcours est intéressant dans le sens où beaucoup imaginent que c'est vachement chouette de travailler dans le milieu du jeu de société, que par passion, il faut absolument que j'ouvre un magasin, il faut, j'aimerais tellement être auteur, être éditeur. Finalement, ça fait quoi quand on passe, je vais pas dire du côté obscur, mais quand on passe le pas en disant « Ah, c'est ça en fait le milieu du jeu ».
Alors là, de ce côté-là, donc nous sommes actuellement, je pense qu'on peut le dire à l'antenne, nous sommes en mars 2013. Donc j'avoue que je suis encore tout jeune dans ce côté obscur.
Ça fait 3 mois.
Hein. Ça fait 3 mois, voilà. Et j'ai encore pas trouvé tout à fait mon Master Yoda pour pouvoir m'accompagner sur ce chemin-là. Mais il n'empêche qu'effectivement, être passé de l'autre côté m'amène d'ores et déjà à dire « Ah, ce n'est pas ce que je croyais ». Voilà. Alors, je suis passé par l'étape vendeur, même si ce n'était pas ma boutique. Je suis passé par l'étape vendeur en boutique hyper spécialisée, comme on dit maintenant de ce côté-là. Donc, une petite boutique obscure dans une ruelle d'une grande ville. C'est ça. Avec des figurines bizarres et du jeu de rôle. Et voilà. Donc, j'étais déjà un petit peu passé de ce côté-là, mais ça m'avait moins marqué parce qu'on est quand même au contact des joueurs et on est dans une boutique hyper spécialisée. Donc, les gens franchissent quand même le pas en cherchant un petit peu quelque chose. Et puis, nous, on est là pour leur donner.
Donc, ça veut dire que c'est déjà des clients convaincus.
Oui,
ils ont trouvé le magasin, ils ont réussi à le trouver. Et donc, on est déjà dans une frange de la population qui est différente de celle à laquelle tu es confronté maintenant.
Tout à fait. Et en plus, on a maintenant... je me retrouve maintenant un petit peu confronté avec des paramètres auxquels je ne pouvais qu'imaginer avant et que maintenant je touche du doigt par rapport à l'édition, par rapport au délai, par rapport aux histoires de licence, de distribution et des choses qu'effectivement on ne peut qu'imaginer ou chercher à se renseigner, mais quand on les approche dans la réalité, effectivement on se dit « Ah ben d'accord, je n'ai pas fait que jouer ». Je n'ai pas fait que tester, alors j'aime pas trop le mot tester, mais je n'ai pas fait que regarder les prototypes et voir un petit peu ce que ça allait devenir. Je n'ai pas tous les matins un auteur différent avec qui je peux faire un petit déjeuner trop sympathique et tout. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je suis dans mon bureau.
Tu travailles tout seul en plus ?
En plus, il y a ce côté-là, même si on est en Skype plus que très régulièrement avec, entre autres, Martin Bouchard, que je salue, et toute l'équipe de Philosophia tous les après-midi avec les 6 heures de décalage. C'est forcément les après-midi. Voilà, il n'empêche que tu as tout à fait raison. Être passé de l'autre côté, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Et ça ne veut pas dire que je le dis avec des larmes dans les yeux,
non, bien
que je m'écroule par terre en disant « je veux rentrer ». Ce n'est pas ça.
Non, Martin, tu as entendu. Mais il y a quand même une réalité par rapport au monde du jeu. Quand la passion... grandit et qu'on a justement une passion de collectionneur, comme tu en parlais, on a très vite fait d'oublier que ça reste du business, quoi. Et donc, sans dévoiler, je ne suis pas à la recherche de secrets de business, mais quelles sont les choses qui sont flagrantes au niveau du contraste où tu dis, ah oui, ça, évidemment, j'y avais jamais pensé, ou ça, ah oui, ça, évidemment, le jeu, je le vois différemment à ce moment-là.
Eh bien, une des choses pour laquelle, pour l'instant, je bataille un petit peu, mais en même temps, je comprends aussi qu'il y a d'autres contraintes qui font que peut-être je m'attaque à des moulins à vent, c'est par exemple les délais de sortie. On discute énormément en disant, en ce moment surtout, et ça ne veut pas dire non plus que je suis d'accord avec ces histoires de buzz qui doivent monter X mois avant, et puis finalement la durée de vie du jeu s'en trouve encore plus restreinte après la sortie, c'est de plus en plus court, mais il n'empêche qu'il faut quand même parler du jeu, que les gens puissent vite sentir est-ce que c'est un jeu pour moi ? Est-ce que je vais aller plus loin dans l'intérêt que je lui porte ? Et c'est ce qu'on souhaite, bien évidemment, quand on est passé de l'autre côté. Bon, mais quand une boîte de jeux sort de production et arrive dans les stocks d'Asmodée, et puis que 3 jours, 4 jours, maximum plus tard, elle est dans les boutiques, j'ai l'air d'un clown finalement si je dois en parler 3 jours ou 4 jours avant, alors que juste après, les gens vont dire Bah oui, mais bon, c'est bon, ça y est, on l'a déjà vu dans la boutique. Ouais. Alors, en même temps, il y a un effet pervers parce qu'on se dit, bah, il vient juste de sortir, me dites pas que c'est une sortie déjà passée. Et en même temps, effectivement, il faut s'y prendre un petit peu en amont pour justement commencer à déblayer le chemin pour que le jeu puisse vraiment trouver sa vie. Alors, c'est un petit peu paradoxal, et ça, on n'y pense pas quand on est de l'autre côté. Quand on est de l'autre côté, je lisais les magazines spécialisés, j'écoutais les podcasts, je cherchais de l'information sur Internet, le buzz montait en moi, et puis du coup, le jeu sortait, j'avais envie d'en savoir encore plus, et des fois, j'étais un peu frustré en disant bah, « Pourquoi on nous a dit telle date ?» Puis finalement, c'est encore repoussé, puis c'est encore repoussé, oh là 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 là. Et puis au final, maintenant, je suis de l'autre côté en me disant « Ah bah oui, si on pouvait le repousser même encore d'une semaine pour que moi, j'ai le temps de pouvoir en parler correctement. Ouais. » Voilà, c'est un exemple.
Parmi les sorties, donc les jeux qui sont sortis, on va consacrer en fait cette interview aussi à trois jeux. Donc les Palais de Carrara, le fameux Kramer Kiesling de Essen, qui a tout ce qu'il faut du jeu allemand. Avec
même un peu plus.
Oui. Donc, oui, effectivement, donc ça on va en parler. Il y a Zuloretto qui est connu, mais qui est passé du côté Philosophia avec un historique déjà fort connu, puisqu'il a eu un Spiel et tout ça. Et puis le fameux Pandémie, qui est aussi un vieux jeu, on va dire, mais en fait c'est 5 ans. Et donc 5 ans pour un jeu, ça fait déjà un vieux jeu. Et donc ça, on va en parler. On va commencer par le palais de Carrara, donc fameux Kramer Kiesling qu'on a vu à Essen. Les palais de Carrara, c'est le marbre de Carrara qu'on retrouve en Italie. C'est quoi l'idée de ce jeu-là?
Alors, l'idée de ce jeu, on va encore dire, typiquement à l'allemande. Oui, c'est vrai, parce que le thème va certainement résonner aux auditeurs comme un thème déjà connu. On est une famille d'architectes, constructeurs, étonnants, et on va essayer, avec différentes qualités de marbre, de rehausser plusieurs villes d'Italie de bâtiments prestigieux. L'intérêt du jeu Palais de Carrara, c'est que ces constructions-là vont se faire dans différentes villes et avec différents bâtiments et avec différentes qualités de marbre. Alors, le marbre se récupère sur une roue, ce qui fait que le prix d'achat des marbres varie en fonction des actions des joueurs. Les constructions se font sur un petit plateau individuel. Donc, dans telle ville ou telle ville représentée sur mon plateau individuel, je place une bibliothèque, un palais, une porte, une cathédrale, que sais-je encore.
Et ces bâtiments sont disponibles, en fait, on voit...
Sur un marché commun, tout à fait, qui est sur le plateau central. Et le vrai moment clé ensuite du jeu, la petite chose qui fait palpiter le cœur...
Le catch.
Tout à fait. C'est le moment où on va demander au roi de venir évaluer nos travaux. Alors, on peut évaluer deux choses. On peut évaluer un type de bâtiment en disant « Majesté, je vous en prie, venez visiter mes bibliothèques dont j'ai parsemé l'Italie et vos villes magnifiques. » Et donc, on va bonifier les points, soit en forme de points de victoire, soit en forme d'argent, les bibliothèques qu'on a construites. Bon, ça peut se faire pour chaque joueur. Mais l'autre intérêt, c'est de venir demander au roi d'arriver dans une ville donnée et d'évaluer cette ville et les travaux qu'on a fait dans cette ville. Et ça ne peut se faire que par un seul joueur par ville. Donc, à nous de sentir le bon moment pour faire cette évaluation. Donc, ça donne un jeu avec un tempo très particulier. Et en plus, un jeu où l'interaction pour un jeu allemand, c'est pour ça que je disais avec un petit plus, l'interaction est quand même bien plus, on va dire, ouais, Guillaume, vendu à Philosophia. Bah oui, forcément, j'y travaille. Donc bon, mais il n'empêche qu'on ne peut pas se permettre de ne pas surveiller ce que font les autres. On ne peut pas se permettre de ne pas regarder un petit peu quel type de marbre ils ont pris, même si c'est caché derrière un paravent, en se disant, est-ce que je me lance maintenant ou pas encore maintenant?
Maintenant, il y a une autre chose, c'est qu'une fois qu'on a commencé à maîtriser ce jeu-là, il y a une petite astuce, c'est qu'il y a une enveloppe bizarre dedans.
Eh oui, une enveloppe bizarre et une enveloppe cachetée. Alors, si vous êtes comme moi, on a du mal à se retenir et on n'attend pas les deux ou trois parties avec les règles d'initiation, on devrait dire les règles de base.
Parce qu'il est marqué explicitement dessus, jouez d'abord deux, trois fois avant d'ouvrir l'enveloppe.
Ah, c'est marqué, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas pu attendre, il fallait que je regarde ce qu'il y avait dedans. Bon, je ne pense pas que ça gâche vraiment la surprise. Par contre, je pense que c'est réellement une bonne idée de la part des auteurs d'avoir imposé quelque part un petit peu ce timing. Il s'avère que pour les gros joueurs, l'intérêt réel sera de jouer avec tout de suite, de jouer ensuite avec les règles avancées, on pourrait dire. Parce que les objectifs initiaux sont remplacés du coup par des objectifs tirés au hasard parmi un certain nombre de cartes. Et du coup, chaque partie prend une configuration très particulière. Sans oublier en plus le petit intérêt supplémentaire, c'est des cartes qui permettent de transformer nos villes, de faire évoluer nos villes. Et plutôt que de rapporter seulement des points de victoire et de l'argent, elles pourraient rapporter éventuellement les deux avec des bâtiments particuliers et des conditions de fin de partie particulières. Ce qui fait qu'on a une double lecture qu'on a appris avec le premier niveau de lecture qu'on a appris avec les règles de base. Et ensuite, on a un deuxième niveau de lecture qui va être, voyons, on me demande ça, ça, ça et ça. Il y a quatre objectifs. Il y a quatre objectifs pour la fin de partie et qui vont scorer. Je sais aussi que tel ou tel ou tel tuiles vont pouvoir sortir pour améliorer les villes. Comment est-ce que je vais pouvoir goupiller tout ça bien comme il faut ensemble pour l'emporter? Et là, une fois encore, je trouve que les palettes Carrara 2012-2013 trouvent particulièrement sa place, comme je trouve, c'est pas une bonne comparaison au point de vue mécanisme de jeu, mais, oui. mais comme avait résonné l'arrivée de Tikal, avec les points d'action multiples qu'on organise un petit peu comme on en a envie, et bien là, on retrouve à nouveau l'empreinte de Kramer et Kiesling en disant « Waouh, ils ont réussi dans un jeu allemand, avec un thème, on pourrait effectivement le dire, plaqué, et bien ils réussissent à impulser une interaction qu'on ne croyait pas forcément possible dans un jeu à l'allemande. Ouais. Et ça, c'est fort.
Pour tout dire, ça fait penser aussi un peu à la logique de Risk Legacy, où tu sais que le jeu va évoluer, ouais. et donc là où tu crois connaître un jeu comme Risk, hein, oui. tout le monde dit « Ah oui, j'ai fait des heures de Risk », eh bien, quand on joue à un jeu comme ça, ouais. on sait qu'on ne va pas en faire le tour facilement. Donc ça, c'est quand même intéressant. Une chose qu'on n'a pas dit, c'est le but du jeu. Donc, c'est comment est-ce qu'on gagne ? Parce que
pour
tu parlais d'objectif.
Oui, je vous laisse deviner.
Donc effectivement, on construit des palais en mer, mais finalement, quel est le but du jeu ? Il y a une histoire d'objectif en fait dans le jeu.
Voilà. Donc il y a dans les règles initiales trois objectifs différents. Le premier, déclencher un certain nombre d'évaluations, donc soit des villes, soit des bâtiments construits. Le deuxième est un objectif en termes de construction. Les bâtiments vont de 1 à 5 en coût de construction, en marbre, en petits jetons de marbre. Et il faut en construire un certain nombre en fonction du nombre de joueurs pour remplir cet objectif-là. Et il y a un troisième objectif. Quand on évalue les bâtiments, on récupère des petits objets représentatifs de ces bâtiments. Donc, par exemple, on construit une cathédrale. Bon, ben forcément, il y a un livre sacré dedans. Donc, quand on évalue la cathédrale, on récupère un livre sacré en bois, très joli. Et il faut un certain nombre d'objets pour remplir la condition de fin de partie. Là où c'est intéressant, c'est que ces conditions de fin de partie sont aussi les objectifs à atteindre qui donc vont permettre de scorer des points en fin de partie. Donc, on score pendant la partie, mais on scorera surtout en fin de partie. En sachant une chose, une dernière petite chose, c'est que celui qui a rempli les trois conditions de fin de partie, je parle encore des règles de base, c'est un petit peu amélioré avec les règles avancées, peut décider ou non de lancer le dernier tour. Il peut dire « Non, je pense que je peux encore améliorer, mais à ce moment-là, je prends le risque que quelqu'un d'autre l'annonce et gagne les quelques points bonus à avoir annoncé la fin de partie. » Donc, il faut vraiment lire le jeu des adversaires.
C'est un jeu qui s'emballe à un certain moment.
Tout à fait.
Ok, donc ça c'est les palais de Carrara, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs et on est sur 60 minutes, donc c'est du jeu moyen à l'allemande, du Kramer Kiesling. Alors,
si juste pour rajouter, c'est vrai que le 60 minutes est une durée indicative, on va dire oui, on nous a déjà fait le coup 40 et puis ça devient du 90. En l'occurrence, il est vrai que les règles avancées, en fonction des objectifs de fin de partie tirés, et je pense que M. Fall ne me contredira pas en l'occurrence, on peut exploser. On peut exploser les 60 minutes. Si on a des objectifs, on va dire, longs, qui se cumulent, alors, bon, bah, une partie de 2 heures, ça peut arriver. Mais parce qu'on aura un jeu qui se sera typé lui-même avec les objectifs tirés. Voilà.
Ok, ça, donc, c'est fait. Alors, passons sur Pandémie. Pandémie, jeu coopératif qui est apparu donc, il y a 5 ans, à une époque où on avait, il y a Ghost Stories qui est arrivé aussi un peu dans la même époque. Ça a un peu relancé, ces deux jeux-là ont un peu relancé. D'un côté familial, de l'autre gamer pour Ghost Stories, ont relancé un peu la lignée des jeux coopératifs. Maintenant, on en voit beaucoup. Pandémie, c'est en 20 secondes, c'est quoi ?
pandémie, c'est quatre maladies qui se répandent, quatre horribles virus qui se répandent sur une map monde. Mmh. Et les joueurs sont une équipe de scientifiques aguerris, tentent de gérer en même temps l'évolution des pandémies, des épidémies, et en même temps de trouver les quatre vaccins, les quatre remèdes à ces quatre maladies. Une fois que ces quatre remèdes ont été trouvés, et ça c'est l'objectif réel, à ne pas perdre de vue, le jeu est gagné. Sinon, le jeu est perdu.
Voilà, alors... ce jeu a quelque chose d'épatant, c'est-à-dire c'est que dès le premier tour, on se dit qu'on ne va jamais y arriver. Et ça, c'est très très fort. C'est le propre d'un jeu coopératif, mais là, c'est vraiment flagrant. L'autre élément, c'est que, j'ai dit familial, finalement, des virus assez horribles, etc., ça n'en fait pas un jeu très familial. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que Matt Leacock, l'auteur, finalement, a été contacté par Game Right à l'époque, après le succès de Pandémie, pour dire, est-ce que donc Game Right, c'est fameux, c'est un peu le collègue américain de Cocktail Games. Ils sont venus le voir en lui disant, est-ce que tu peux me faire un jeu vraiment plus familial que des gens qui meurent avec des maladies? Et c'est devenu Forbidden Island. Et c'est pour ça que j'ai parfois des joueurs qui viennent me voir en disant, oui, mais Forbidden Island, c'est une copie de Pandémie, c'est nul. Et quand je leur dis que c'est le même auteur et que c'est voulu, évidemment, ça change quelque chose. Mais... Pandémie a quand même 5 ans, ça a tenu le coup. Et maintenant, on est dans une version revisitée, non pas au niveau de la mécanique, je pense, non, mais au niveau design. Et donc, en passant un petit peu sur l'évolution de ce jeu-là.
Alors du coup, effectivement... l'expression consacrée serait de dire « ça se vend par palette ». On parlait business tout à l'heure. C'est vrai que Pandémie, au-delà de son thème, ou peut-être avec son thème, on se rapproche quand même un petit peu au point de vue de l'oppression que le joueur peut ressentir d'un 24 heures chrono, j'ai envie de dire. On se rapproche aussi d'un thème un petit peu à la Urgence. Bon, ben, Urgence, malgré tout, c'est une série qui fonctionne alors qu'on voit des gens ouvrir sur la table d'opération et puis du sang et tout. Il n'empêche que c'est suivi et que ça... Bon, alors je ne dis pas que c'est un jeu opportuniste, je dis simplement que le thème finalement nous touche, nous rejoint, même, même malgré tout dans cette réalité qui peut nous entourer, sauf que là, on peut agir dessus, et là, à un niveau mondial, on peut se dire, tiens, on va faire comme si on pouvait faire quelque chose réellement. Donc malgré tout, je suis assez d'accord avec toi, il y a un côté familial, même si le thème d'un premier abord pourrait sembler très étonnant. Alors ça a été revisité pour plusieurs raisons. La première édition, bien que certains, et je le conçois tout à fait, aiment beaucoup la patte graphique qui avait été choisie pour cette première édition, il n'empêche qu'on restait encore dans un univers qui était encore un petit peu marqué, un petit peu sombre et peut-être un petit peu joueur quelque part. Je crois que l'illustrateur de Philosophia et l'envie aussi de Philosophia et de Zeman a été de rendre ça justement encore plus accessible, à regret peut-être pour certains qui aimeront encore plus leur première édition, et c'est très bien. Du coup, on se retrouve avec une édition avec des couleurs bleutées, un petit peu technologique, comme un écran d'ordinateur sur lequel on sera en train de surveiller les maladies, et des petits cubes translucides qui vont bien justement avec ce côté un peu techno, des cartes rôles, des cartes mondes qui ont été un petit peu revues et qui permettent de retrouver ce côté un petit peu, allez, osons le mot, et puis n'en ayons pas peur, série américaine. Mmh. Et je pense que ça prend bien.
Ça veut dire quoi? C'est Zedman Games qui a poussé à cette revisite?
Alors,
quand je parle culture américaine, hein, il faut savoir que Zedman Games est quand même purement américain.
Éditeur américain qui est maintenant très, très lié, c'est le cas de le dire, hein, plus que ça, à Philosophia. Donc je pense que c'est un vrai travail conjoint qui a été mené. Alors, je ne veux pas l'affirmer, puisque je n'étais à l'époque pas dans le secret des dieux. Je ne le suis pas complètement non plus, hein, mais effectivement, c'est vraiment un vrai travail voulu. Et c'est vrai qu'en plus, 5 ans, ça en fait un jeu maintenant presque expérimenté, hein, avec la rapidité avec laquelle les cycles de vie des jeux tournent actuellement. Ce qui fait que, je pense, Pandémie méritait réellement pour son anniversaire, pour son 5e anniversaire, une belle opération de chirurgie esthétique, entre guillemets.
Bien vu. Ça veut dire qu'on touche à un autre public, puisque le graphisme a été revisité. Donc, ça veut dire que les gens vont plus le choisir qu'avant dans les étagères.
Je crois que c'est un des buts. Je pense que de ce côté-là, c'est un but atteint, bien qu'on soit vraiment qu'au tout début de son implantation. Il était présent au Festival international des jeux à Cannes dans sa version surdimensionnée. Et effectivement, on n'a pas arrêté de le faire tourner. En plus, on leur donnait des blouses de médecins, des masques à se mettre sur la bouche et des charlottes. Et ils avaient tous l'impression de vivre encore plus quelque chose. Et le jeu le pousse, mais je crois que c'est aussi ces nouvelles illustrations-là qui amènent les familles. On a vu des frères et sœurs s'attabler, des fratries entières avec, avec un parent pour faire une partie. Je ne dis pas que ça n'aurait pas été possible avec la première version. Je dis simplement que là, c'est encore plus flagrant, encore plus dynamique.
Justement, comment est-ce que tu expliques le jeu à... Bon, j'imagine qu'à Cannes, tu as vu passer des familles qui ne connaissaient pas spécialement le jeu. Comment est-ce que tu fais pour les faire s'asseoir, sachant que bah, c'est des maladies qui déciment le monde et qu'on doit les combattre ?
Pour tout dire, on attaque, entre guillemets, en disant « c'est un jeu coopératif ouais. ». Et là, ça reste encore un élément qui, par certains joueurs un peu plus... qui découvrent le domaine du jeu de société, donc moins au courant, ça reste une découverte réelle, en disant « Ah bon ? Mais oui, vous allez jouer ensemble, vous allez tous gagner. »
Moi, je n'aime pas perdre, donc je ne joue pas au jeu.
Voilà, et là, c'est pas une histoire de gagner ou perdre, ou alors si c'est le cas, c'est ensemble. Ouais. Vous n'allez pas affronter quelqu'un, vous allez juste affronter le jeu, et du coup, ça devient un espèce de défi d'équipe, et ça porte les gens à s'ouvrir encore plus facilement, j'allais dire, à s'asseoir et à pratiquer le jeu.
Le coopératif, c'est une belle porte d'entrée pour des non-joueurs.
Oui, clairement, clairement, et même on se rend compte que certaines personnes un peu réfractaires, bon, j'ai quelques images en tête de parents ou de grands-parents qui accompagnent en disant « non, mais moi je ne joue pas, je regarde, c'est tout », et qui se laissent réellement impliquer, prendre
en disant des conseils.
C'est ça. Non, mais regarde, le monsieur, il t'avait dit qu'on pouvait faire comme ci, il faut le faire maintenant et tout. Et on a envie de leur dire, mais asseyez-vous. Et en même temps, on ne leur dit pas, parce que c'est justement parce qu'ils ont gardé un petit peu ce petit recul, qu'ils ne se sentent pas agressés et que du coup, ils se lancent dans le coopératif.
Bon à savoir. Ok, donc ça, c'est pandémie. Il n'a pas changé à part les graphismes. Hein, donc la mécanique reste la même avec des épidémies, deux
extensions à venir.
Ah oui, donc elles ne sont pas dans la boîte.
Mais... Alors, elles ne sont pas dans la boîte. Au seuil de la catastrophe qui existait déjà arrive très prochainement. Donc le suivi sera réel. Pour ceux qui ont eu la première édition et qui n'ont pas l'extension de la première édition, il y aura des petits paquets de compatibilité, donc des petits paquets de cartes qui leur permettra de jouer à l'extension, à la première extension, sans racheter forcément la boîte de base. Et ensuite sortira, fin 2013, peut-être début 2014, je ne veux pas non plus m'avancer trop, la deuxième extension, inédite à ce jour, In the Lab en anglais, dans le labo pour l'instant, titre provisoire en français. Et là, une fois encore, il y aura un petit paquet de compatibilité pour ceux qui ont acheté la version 1 de base, la version 1 de l'extension, et qui voudraient jouer avec dans le labo.
Là, tu en as trop dit ou pas assez. Qu'est-ce qu'il y a dans le labo ?
Ah non, je ne le sais même pas. Ou alors, il me faut mon avocat.
Oui, c'est ça. J'avais compris. Ok. Bon, mais tant pis. Je vais le torturer et on revient.
Ça marche. Non, cela dit, le titre quand même, on apprend un petit peu. On peut déjà...
Dans le terrorisme, je sais quoi.
Alors, le terrorisme,
c'est
dans l'extension au seuil de la catastrophe. Dans le labo, on pourrait... Alors, j'espère que j'en dis pas trop ou que je ne me trompe pas. On a presque un double niveau de jeu, hein, comme si on développait un petit peu... quelque part, n'allez pas trop vite, ne fantasmez pas trop, comme si on développait quelque part son labo de recherche et en même temps on a le plateau. Bon, voilà, point.
À voir. Okay, d'accord. Donc voilà, pandémie, c'est dans les bacs, comme on dit chez les disquets. Et voilà. Et en plus, il y a tous les prix qu'il a gagnés dessus. Donc je vois, hop, Trick Track d'or, évidemment, Board Game Geek, et qu'est-ce que c'est que ça ? Origins, évidemment, et alors un prix australien, Best International Game 2009. En Australie. S'il vous plaît. Voilà, ça c'est le deuxième. Et alors on va passer au zoo, puisqu'on a le fameux Zooloretto.
Allons au zoo.
Avec Zooloretto donc de Michael Schacht.
Merci de l'avoir dit à ma place.
Avec plaisir.
J'arrive jamais à le dire comme il faut.
Ça va, je fais des stages. Donc, Spiel des Jahres, je ne sais plus quelle année.
2007.
Et donc, il arrive chez Philosophère, donc ce n'est pas une nouvelle en fait. Où est la nouvelle ? Où est l'info ?
Alors, où est la nouvelle ? En l'occurrence, l'équipe de Philosophia, bon, particulièrement Sophie, je crois.
Sophie Gravel.
Fondatrice aussi, mais bon, pas qu'elle. Hein, l'équipe Philosophia a vraiment flashé, on pourrait dire, sur ce jeu qu'on pourrait qualifier de... Parfaite marche, une fois encore, parfaite marche pour une entrée dans le domaine du jeu de société. On a eu les colons de Catane, on a eu les aventuriers du rail, je ne fais pas de pub, mais il n'empêche que c'est une réalité. Et je trouve, alors c'est vrai, on a aussi Seven Wonders, mais on a aussi Zou Loreto, qui, je trouve, est le représentant typique d'un jeu malin, pour ne pas reprendre une classification d'un célèbre éditeur.
Qui est dans les murs, on ne va pas parler trop.
Donc d'un jeu effectivement malin, et qui en même temps se joue de façon presque, j'ai envie de dire, évidente, en s'asseyant autour d'une table. On fait soit ça, soit ça, soit ça, ça va très vite, ça tourne bien, et au fur et à mesure qu'on joue, on se dit « Ah, mais si, tiens, pour l'instant, je pourrais peut-être faire comme ça. » Et ça a aussi cet avantage de construire son propre zoo, c'est-à-dire que même si quelqu'un ne gagne pas, je joue par exemple avec mes enfants et tout, même si effectivement, ils ne sont pas encore dans la gagne pour ce jeu-là, à la fin, ils ont un zoo devant eux et ils en sont contents. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Zou Loreto ?
Eh bien, dans Zou Loreto, on gère un zoo et on essaye d'attirer le plus possible de visiteurs. Et pour ce faire, il faut que les enclos soient pleins, pleins à craquer, comme d'animaux, donc de différentes espèces. Alors, on ne peut pas mélanger les espèces dans les enclos. Donc, on fait un enclos avec des zèbres, un enclos avec des éléphants. C'est tout mignon. Les pandas sont là, bien sûr. On n'allait pas les...
L'avant-garde.
Ça, c'est de l'avant-garde, tout à fait. Ça se retrouve ailleurs et on a même dit que c'était responsable du gain du spiel. Donc, mettons des pandas dans les jeux de société. Donc, on gère son zoo, sans oublier qu'on a un petit peu aussi de gestion d'argent. L'argent est toujours un petit peu en quantité restreinte, donc il faut en faire très bon usage pour éviter que notre étable, qui est une partie de notre plateau individuel, ne se remplisse trop d'animaux dont on ne sait que faire. Donc voilà, gestion d'animaux. Il faut savoir qu'on peut gérer les camions, donc c'est des petits plateaux en bois sur lesquels on peut mettre 3 jetons. Au fur et à mesure, hein, bien sûr, pas 3 jetons d'un coup. Et l'intérêt, je dirais, en tout cas, c'est ce que je disais aux joueurs qui le découvrent, le centre du jeu, le centre de ce jeu-là, c'est justement la confection de ces camions-là. Si je fais un camion trop intéressant à mon tour, il ne me reviendra pas puisqu'il sera pris. C'est une autre action possible. Soit je le complète, soit je le prends. Si je le fais
et on le prend pour alimenter son zoo.
Et on
alimenter, façon de parler.
Tout à fait. On le prend pour récupérer les animaux ou les boutiques qu'on va mettre dans son zoo. Et en même temps, si je fais un camion de façon évidente trop, alors pardonnez-moi l'expression, mais trop pourri, eh ben, personne ne le prendra et je risque de l'avoir à la fin. Et donc, c'est là où, une fois encore, on a un jeu à l'allemande, il y a très peu d'interactions de prime abord et où, au final, regarder ce que font les autres et puis pouvoir tirer un animal, regarder son adversaire dans les yeux en disant « Tu vois ton beau camion que tu as commencé à faire, eh ben, prends ça dans tes dents. » Eh ben, c'est quand même vraiment intéressant. Et quand les enfants font ça à leurs parents, ils sont ravis.
Alors justement, qu'est-ce qui a impliqué le fait de rééditer ? Enfin, c'est une réédition en fait, c'est un rachat de licence.
C'est là où il y a un effet, enfin en tout cas une particularité. Abacus Spiele s'est donc entendu avec Philosophia. Philosophia a racheté la licence Zou Loreto. Alors du coup, ça prend un chemin complètement différent pour arriver dans nos boutiques. Au lieu d'être une distribution d'une version multilingue qui arrive de chez Abacus Spiele par qui a bien voulu le faire arriver en France, par exemple en France, il me semble que c'était Oya, c'est un premier parcours.
C'est la première vie de Zou Loreto.
Ça, c'est la première vie de Zou Loreto, à la suite aussi de son Spiele, hein, puisqu'il l'a gagné assez rapidement. Quand Philosophia rachète la licence, ça veut dire qu'il y a déjà quelque part cette licence à la Parlons Business, qui a déjà cette licence à payer. Donc, ce n'est plus déjà le même parcours. Et puis, en plus, la version, malgré tout, a été clarifiée, en tout cas dans les règles, avec une FAQ qui m'a d'ailleurs permis de me rendre compte que je jouais mal à Zou Loreto et Pan, voilà Guillaume, mais qui permet donc de reclarifier les choses. Et puis, redonner un petit peu de visibilité et d'intérêt, on a rajouté un punchboard qui contient une nouvelle espèce, en plus des espèces qui étaient déjà présentes. Donc, on retrouve les lions, c'est pour ça que c'est l'édition Roi des animaux, voilà, puisqu'on retrouve les lions. On retrouve également des aides de jeu qui n'étaient pas présentes dans la première édition et qui permettent de suivre les opérations commerciales. Effectivement, on pourrait, pour un joueur, pour un connaisseur, peut-être que pour les auditeurs qui écoutent Boîtecast, ça pourrait sembler, peut-être, je ne veux pas m'avancer non plus, léger. C'est vrai. Mais il n'empêche que on va dire, la puissance de feu Philosophia n'est pas non plus juste une distribution dans les boutiques françaises. Ça veut dire que Philosophia croit vraiment dans ce jeu-là, au point de vue familial, comme je le disais tout à l'heure, et qu'il va y avoir de la suite.
Et donc, ça veut dire que Abacus Spiel a cédé sa licence, hein, donc ça a eu un coût. Donc, ce coût se répercute dans le prix des boîtes d'office. Mais qu'Abacus donc, ne fait plus ce jeu-là. Parce que si, tu vois ce que je veux dire ? Si on rachète la licence, finalement, on a les droits sur le jeu.
Alors, ce qui explique... alors, je, pareil, une fois encore... Je suis trop récemment arrivé pour pouvoir l'affirmer. Mais ce qui explique que la version multilingue Abacus Spiele ne devrait plus être. En tout cas, plus multilingue avec la version française, puisqu'elle existe en version française intégrale. Donc, Abacus Spiele certainement continue, je l'espère, de produire Zuloretto, mais pas la version française.
C'est du collector à avoir de ce
quelque part. Il faut les deux maintenant.
Oui, c'est ça. Ok, donc ça c'est Zuloretto. Et alors on est. Donc on est sur 8 ans et plus de 5 joueurs, 45 minutes. Donc c'est vraiment du familial.
Tout à fait.
Voilà, mais je pense que c'est déjà pas mal. Hein ?
J'en ai beaucoup dit. Hein ?
Ah, c'est pas mal. Mais c'est complet. C'est complet.
Merci, monsieur.
Monsieur connaît ses produits. Voilà. Merci, Guillaume.
Merci à toi. Écoute, merci d'autant plus que, en plus, tu as démarré ce podcast en posant des questions sur moi comme un grand. J'ai l'impression d'être waouh, merci.
Tu es amené à être croisé régulièrement sur les événements ludiques, donc c'est important de faire ta connaissance.
Bah, merci beaucoup. Merci à tous.
Avec plaisir.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.